foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Le Sage.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et Turbulence. Au microphone, c'est Francine Robert. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un évangile que j'aime beaucoup, l'évangile selon Saint Luc. On a décidé de consacrer une émission à cet évangile parce que l'année liturgique qui vient de commencer ce premier dimanche de décembre sera l'année liturgique Saint Luc. Donc cet évangile sera utilisé presque tous les dimanches. Alors, puisque c'est moi qui serai en quelque sorte l'invité et la personne ressource de cette émission, j'ai demandé à ma collègue Sylvie Latreille, qui est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains, d'animer cette entrevue et d'avance, je la remercie d'avoir accepté. Bonjour Sylvie.
Bonjour Francine. Francine, quand j'ouvre l'évangile de Luc, j'ai l'impression vraiment de me retrouver en pays connu. Non pas parce que c'est une histoire de Jésus dans laquelle je pourrais reconnaître les principaux paramètres, mais je dirais que c'est comme si les grands enjeux pastoraux qu'identifient Luc ressemblent tellement à ceux que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église. Et dans sa manière de nous amener à suivre Jésus, j'ai l'impression de faire route avec lui d'une façon tellement moderne. Est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas, Sylvie. C'est vrai que l'évangile de Luc est peut-être le plus proche de nos mentalités aujourd'hui. D'abord parce que Luc est grec et il écrit pour des Grecs. Or, nous sommes en Occident les descendants culturels, pourrait-on dire, de la civilisation gréco-romaine. Et à ce titre-là, il est certainement plus proche de nous que l'évangile de Matthieu, par exemple. Mais aussi, je dirais, parce qu'il y a des manières de réfléchir chez Luc qui sont proches, finalement, de certaines questions. Il a eu des défis pastoraux pour inculturer l'évangile dans son milieu qui ressemblent beaucoup aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Et c'est pourquoi on se retrouve un petit peu chez nous. Quand on lit l'Évangile.
Ne serait-ce qu'à travers la rencontre des personnages, ne serait-ce que la manière dont ils présentent Jésus.
Oui.
Chaque évangéliste nous présente des traits de Jésus. Je serais curieuse de voir c'est quoi les principaux traits que Luc dessine pour nous en présentant son Jésus.
Oui, chaque évangéliste met en évidence, oui, certains aspects du personnage de Jésus. On appelle ça sa christologie. Son personnage de Jésus, il est d'abord un personnage qui chemine avec les gens, un personnage proche des gens. C'est un Jésus chaleureux, je dirais. Bon, c'est certain que Jésus pour Luc, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est tout ça. Mais vous serez peut-être étonné, Jésus c'est un prophète pour Luc. Et on a toujours l'impression que prophète c'est un titre à rabais. Quand on l'applique à Jésus, puisqu'il y a d'autres prophètes.
Mais dans Luc, il y aurait une spécificité.
Oui, absolument. Luc insiste. Par exemple, c'est dans Luc que Jésus va dire « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem ». Vous voyez, il s'identifie lui-même.
Dans la lignée prophétique.
Dans la lignée prophétique. Et ça fait de Jésus une sorte de... bon, passez-moi le mot, une sorte de héros au sens moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui est persuadé de la vérité de ce qu'il a à proposer, un porteur de message, et qui le proclame, à qui veut l'entendre à temps et à contre-temps, comme un prophète, et qui en subit les conséquences, c'est-à-dire qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et la mort de Jésus, chez Luc, c'est la mort d'un prophète.
C'est la mort d'un prophète.
Oui.
Et ce prophète, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en acte.
Absolument. Ce sont vraiment les options de Jésus qui orientent toute sa vie, ses discours, ses attitudes, ses fréquentations. Et il va payer le prix de ses convictions sur un Dieu qui cherche à se faire proche des gens. Et dans ce sens-là, c'est assez étonnant, par exemple, on est habitué, nous, à cause particulièrement des paroles de la consécration, a associé la mort de Jésus à une sorte de valeur expiatoire, mort pour nos péchés. Hein, c'est ce qu'on dit.
Exact.
Dans l'évangile de Luc, cette expression est absente. Ça se joue autrement pour Luc et pour les Grecs. D'ailleurs, cette valeur expiatoire là n'est pas
très familière.
Et simplement, Luc, à la dernière scène, Jésus va dire « Ceci est mon corps donné pour vous ». Donc, il vit, il donne sens à sa mort comme étant la conséquence de sa vie, de ses options, de ses choix.
Comme prophète.
Comme prophète. Et cette vie-là, c'est une vie donnée. Et c'est une vie, je dirais, en solidarité avec l'humanité. Il meurt parce qu'il est fidèle à ses convictions et parce qu'il est un homme. Il meurt avec l'humanité qui meurt. Le chemin de Jésus, c'est un chemin de solidarité.
Ce Jésus que j'oserais dire très moderne, parce que quand je vous entends, je revois des images aussi de prophètes de notre temps, qui personnes de conviction.
Et qui ont été tués.
À ce moment-là, si je me mets à la suite de ce Jésus, qu'est-ce que je vais rencontrer dans les récits de Luc?
Vous allez rencontrer un Jésus qui a la patience des cheminements, je dirais. C'est assez étrange, Sylvie. Il y a beaucoup, beaucoup de textes dans l'évangile de Luc qui sont propres à Luc, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et entre autres, dans sa manière d'organiser son livre, il y a toute une section des chapitres 9 à 19 où Jésus est en chemin vers Jérusalem. Évidemment, historiquement, Jésus est passé de la Galilée à Jérusalem à un moment donné.
Oui.
Ça, c'est un chapitre dans Matthieu, c'est un chapitre dans Marc.
Dans Marc.
Chez Luc, ça devient une très longue section, presque 10 chapitres. Et dans ce cheminement, Luc va regrouper énormément de récits qui lui sont propres. Et ce qu'on constate, c'est que Jésus a la patience, je reprends l'expression, la patience des cheminements. Il fait route avec les gens et il fait route avec nous. Avant même d'inviter à le suivre,
oui.
Luc nous invite d'abord à regarder, à contempler le chemin auquel Jésus consent. Bon, je vais prendre un exemple.
Donnez-moi un exemple.
Oui, très connu. Je vais aller au bout, à la fin de l'évangile de Luc, un récit très connu, les disciples d'Emmaüs.
On pense à ces deux disciples qui, après les événements à Jérusalem, retournent chez eux, vraiment, je dirais, le moral à terre.
Profondément déçus. Dans...
Oui.
Ils pensaient que Jésus allait libérer Israël, tout ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il est le ressuscité, il fait route avec eux. Vous voyez ce verbe « faire route » qui est très abondant dans l'évangile de Luc. J'avais noté quelque part des statistiques que je trouverai pas là, mais qui est deux fois plus présent. Bon, c'est dommage, c'est souvent trop traduit « aller ».
Alors que c'est
aller,
vraiment
c'est
faire route. Route.
Alors, Jésus fait route avec les disciples d'Emmaüs. Et il ne leur dit pas, écoutez, vous avez rien compris, voici, c'est moi, comment ça se fait que vous me reconnaissez pas. La première parole qu'il dit, de quoi parlez-vous? Il entre dans cette expérience et il fait chemin longuement avec eux, les écoutant et leur expliquant les choses. Ça, c'est typique de la patience de Jésus, je dirais, dans l'évangile de Luc. Cette idée du cheminement, en passant, le cheminement, c'est une notion assez contemporaine dans la réflexion pastorale où on consent à ce que les gens aient du chemin à faire dans leur foi, que tout n'est pas réglé du premier coup.
Et dans cette dynamique-là, on parle de la dimension de l'accompagnement.
Toujours. Et voilà que Jésus fait de l'accompagnement.
Il fait de l'accompagnement, c'est intéressant.
Bien intéressant. Alors, finalement, donc, Jésus fait chemin avec eux. Et ça va se terminer à table. Hein? Une fois qu'ils sont arrivés à Emmaüs, ils vont se retrouver à table avec lui. Ça, c'est une autre des pratiques pastorales de Jésus très accentuée dans l'évangile de Luc.
Cette idée, les repas.
Oui, cette idée du repas, Jésus est souvent invité chez des pharisiens, vous en serez peut-être étonnés. On pense toujours que les pharisiens sont des ennemis de Jésus. Dans Luc, les pharisiens invitent Jésus et il y va. Et donc, on a une sorte de pastorale de la table. Vous voyez ça aussi avec la pastorale du chemin, la pastorale,
pastorale
de la table. Je trouve que ce sont deux comment dire, deux activités pastorales qui ont tout à fait de la pertinence encore aujourd'hui. Alors, Jésus va aller à table avec des pécheurs, bien sûr. Luc va le répéter à quelques reprises. On pense au festin chez Lévi. On pense à Jésus qui s'invite chez Zachée. C'est un récit qu'on ne trouve que chez Luc. Et d'autres exemples aussi.
Oui.
Jésus va chez le pharisien Simon au chapitre 7 et la pécheresse qui entre et qui... Vous savez, pleure et essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, met du parfum, tout ça. Ça n'est que dans Luc, ce très beau récit.
On va retrouver ces magnifiques récits.
Ouais.
Ce qui avait attiré mon attention à un moment donné, Francine, par rapport au repas que Jésus va prendre chez Lévi, c'est comment est-ce que la récrimination de certains pharisiens, malgré tout, se faisait à l'extérieur de la maison, parce qu'ils n'auraient jamais osé rentrer dans la maison de Lévi.
Exactement.
Et l'intérêt... c'est de voir comment est-ce que ce Jésus accueillant, qui fait route, nous montre aussi toute l'importance de la commensalité.
Tout à l'heure, je disais, Luc nous présente un Jésus solidaire de l'humanité. La commensalité, comme vous dites, donc la table commune, c'est une des manières dont on voit cette pratique de la solidarité de Jésus. Et c'est vrai qu'on le lui reproche assez souvent dans les quatre évangiles, mais plus souvent encore chez Luc. Et je pense à ce chapitre 15, très connu, avec la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de la brebis.
Oui.
Mal nommée d'ailleurs, parce que chez Luc, c'est la parabole du berger qui a perdu sa brebis et qui la cherche et qui fait du chemin pour la trouver.
Oui.
La parabole de la femme qui a perdu sa drague. Mais tout ce chapitre commence avec Jésus est à table avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs et les pharisiens disent « il mange avec des pécheurs ».
Est-ce que c'est une manière pour Luc, je dirais, de cheminer avec son auditoire?
Oui, à se reconnaître lui-même comme invité à table, je dirais.
Oui,
c'est ça.
Intéressant.
Parce que le repas, dans les sociétés méditerranéennes et dans le monde juif, ça établit des complicités. On ne mange pas avec ses ennemis. Et alors, quand Jésus mange avec n'importe qui et tout le monde...
Ça fait scandale.
Ça fait scandale, mais ça va aussi scandaliser les bons chrétiens que Jésus mange avec des pharisiens.
Effectivement.
Et voyez, il y a une ouverture, là. Autrement dit, cette solidarité accueillante de Jésus, elle est carrément ouverte à tout le monde. Ceux qui ne viendront pas à table, c'est ceux qui restent dehors, comme vous avez dit. Et là, on retrouve tout à fait, dans une des paraboles propres à Luc, ce rôle-là tenu par le fils aîné, qui entend le père qui a donné la fête pour le retour de son fils et qui refuse
d'entrer dans la maison.
Mais pour Jésus, il n'y a pas de problème à ce que les pharisiens, les scribes, enfin, qui veut bien se retrouver à table avec lui? Sauf qu'il y en a qui ne veulent pas se retrouver à cette table à cause de ceux qui mangent avec Jésus. Et je dirais, Sylvie, puisque j'ai parlé de la parabole de l'enfant prodigue, que la fraternité et la solidarité de Jésus avec l'humanité visent finalement à exprimer une chose fondamentale, et c'est un thème majeur de l'évangile de Luc, c'est Dieu qui cherche l'humanité.
Dieu qui
vient à sa rencontre. Et c'est la toute première proclamation de Jésus à Nazareth dans l'évangile de Luc, proclamer une année d'accueil de la part de Dieu. Et cela s'exprime dans d'autres mots dans l'évangile. Par exemple, Luc va parler des entrailles de miséricorde de Dieu.
La miséricorde de Dieu. Hein? Et le mot entrailles aussi.
Ah oui, c'est vraiment les tripes, hein? C'est le ventre de miséricorde de Dieu pour l'humanité. C'est ça que Luc fait ressortir dans la pratique de Jésus. C'est pourquoi c'est un Jésus qui prend du temps avec nous, qui chemine, qui mange, qui accueille tout le monde à sa
table.
Qui
va être patient.
Qui est patient, qui est chaleureux. C'est pourquoi on a autant de personnages et
aussi de
récits qui multiplient les occasions pour Luc de montrer un Jésus rempli de compassion et accueillant. C'est la perfection même de Dieu qui s'exprime là-dedans. Vous connaissez sûrement, comme beaucoup de nos auditeurs, la phrase qu'on trouve chez Matthieu, « Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. »
Alors que
chez Luc, « Vous serez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est cette compassion de Dieu Jésus de Luc incarne.
Oui, cette miséricorde s'actualise dans cette compassion.
Oui, et dans cette pratique de la route, du chemin, de l'accueil, de la table, de la libération des captifs, de la guérison des gens, et dans cette dernière attitude de Jésus qu'on ne peut pas ne pas souligner, en croix, qu'on ne trouve que chez Luc, la parole « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
On voit bien toute la dimension du devenir, hein? Dans le sens qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être qu'un jour, ils le sauront ce qu'ils ont fait.
Voilà.
Et ça, quand je dis cette expression-là, c'est le cheminement de foi de l'humanité tout entière.
C'est ça. Et Luc est persuadé que l'humanité est capable de ce cheminement.
De ce cheminement.
Vous voyez, et ça, on aura l'occasion d'y revenir, Sylvie. Mais voilà, ce Jésus qui est tellement solidaire de l'humanité jusque dans la mort, qu'au moment de mourir... Et du côté de l'humanité, lorsqu'il dit à Dieu, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il est de notre côté.
De notre côté, comme un intermédiaire.
Absolument, comme un avocat, je dirais, de l'humanité
encore meilleur.
Auprès du Père. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on se sente, en complicité avec ce Jésus prophète et très humain.
Francine, il y a beaucoup de récits dans l'Évangile de Luc.
Oui. Luc a ceci de moderne qu'il croit, il me semble, en tout cas, à la pédagogie par le récit. C'est sûr, il y a des discours dans Luc, mais pas énormément. Beaucoup de récits. Et c'est pourquoi on est face à une galerie de personnages si sympathiques.
Parmi cette galerie de personnages, j'ai comme le goût de vous demander, lequel est votre préféré? Quel personnage vous est le plus sympathique et qui est un révélateur du mystère de Jésus?
Ça serait une belle question à poser aussi à tous ceux qui sont avec nous actuellement. Hein, c'est qui vos personnages préférés? Et je ferai le pari, évidemment, hein, je peux pas entendre vos réponses, mais je ferai le pari que une fois ces personnages nommés, il y en aurait la moitié qui viennent de l'Évangile de Luc. Avant de les nommer, je dirais une chose, Sylvie, le récit, c'est une petite histoire. Hein? Ça a la qualité, vous parliez de la pédagogie, ça a la qualité de nous faire embarquer dans l'histoire.
De s'y reconnaître.
On s'y reconnaît, voilà. Et c'est la façon dont Luc procède pour, je dirais, nous faire entrer dans l'histoire sainte. Et c'est la façon dont Jésus procédait pour faire entrer ses auditeurs.
Avec les paraboles.
Exactement. Et en passant, Luc a 40% des paraboles. Bon, les chiffres, évidemment. Ça veut dire là que si on prend toutes les paraboles de tous les évangiles, il y en a 2 sur 5 qui ne sont que dans Luc. Vous vous rendez compte? On n'en aurait que 3 sur 5 si on n'avait pas l'évangile de Luc. C'est ça, 40%.
Et c'est énorme, là.
C'est énorme.
Du fait qu'il s'adresse à des Grecs, a probablement eu cette influence sur lui que
croirais.
De pouvoir transmettre
je le
de
croirais.
Cette manière.
Parce que vous savez, les Grecs ont pas les racines de la notion d'histoire sainte que les Juifs avaient. Les premiers chrétiens, faut pas l'oublier, sont des Juifs. Et pour eux, Jésus est perçu comme l'aboutissement de cette longue histoire d'alliance avec Dieu. Et ça fait partie de la foi juive et donc de la foi judéo-chrétienne que de considérer que Dieu conduit l'histoire et que l'histoire a un sens.
Alors que chez les Grecs, ils n'ont pas ce point de repère.
Non, et jusqu'à un certain point, aujourd'hui, nous n'avons plus ces points de repère. Les Grecs sont un peu comme nous. L'histoire, ça n'est que l'histoire des guerres, des conquêtes, des grands empires qui se succèdent les uns aux autres. L'histoire de l'humanité, elle n'a pas un sens en elle-même. Elle n'est pas orientée par Dieu comme dans la foi juive. Et alors, Luc doit tenir compte de ce manque de background sur le sens de l'histoire sainte. Et c'est pourquoi, je pense, il multiplie les récits pour que chaque auditeur rencontre une histoire de salut à échelle individuelle.
Dans laquelle il peut vraiment s'identifier.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour pouvoir lui aussi se mettre en chemin.
En chemin. Et ensuite, qu'il puisse partir de cette histoire de salut à taille humaine, je dirais, à échelle de l'individu, pour concevoir que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est ainsi habitée comme une histoire de salut. Alors, on a donc plein de petits récits chez Luc qui sont des histoires de salut. On pense à l'histoire de Zachée, par exemple, qui se termine par « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». On pense à la parabole du Samaritain, hein, qui est une histoire de salut pour cet homme qui est attaqué et laissé blessé sur le bord de la route. Et Jésus invente donc cette belle histoire, cette parabole du Samaritain, qui est encore là, d'ailleurs, c'est le même mot que pour Dieu. Il est ému de compassion, ça le prend au ventre, aux entrailles, de voir cet homme blessé. On a l'histoire du fils prodigue, bien sûr, dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement l'histoire de quelqu'un qui a rompu avec son père et qui revient. Et il n'y a pas une once de reproche dans l'accueil que fait le père. Il s'inscrit au contraire dans l'offre du salut à son fils. « Viens, tu es mon fils. » Et l'aîné, à qui le père fait la même offre, et il sort de la maison pour lui dire « Mais oui, entre, c'est magnifique, celui qu'on avait perdu, on l'a retrouvé, c'est la joie du salut. » Ce thème d'ailleurs de la joie du salut est très présent chez Luc. Alors, vous voyez tous ces récits avec ces personnages, cette pécheresse dont je parlais, mais aussi le pharisien Simon, chez qui la scène se passe, et qui est insulté de voir Jésus laisser cette femme le toucher. C'est une histoire de salut pour elle et pour lui, à qui l'auditeur ou le lecteur peut aussi s'identifier. Jésus raconte une parabole dans ce récit. Et c'est la parabole des deux débiteurs, hein, deux qui doivent de l'argent, un qui en doit pas beaucoup, un qui en doit beaucoup. Et celui à qui ils doivent tous les deux de l'argent annule leur dette, parce qu'ils sont tous les deux insolvables. Cette bonne nouvelle de salut, autant pour le pharisien, qui sera toujours un endetté envers Dieu, quoi qu'il fasse, même si c'est un bon gars qui respecte bien sa religion, comme plein de bons catholiques et de bons chrétiens, ça reste un endetté envers Dieu. Et c'est autant pour lui que pour la femme une bonne nouvelle, ce Dieu qui annule les dettes, c'est-à-dire qui est miséricordieux. Ça nous ramène encore au thème du pardon. Alors, vous voyez, c'est comme si Luc met en scène constamment, dans plein de petits récits, l'histoire du salut, mais à taille humaine, à échelle individuelle.
Individuelle pour être mieux reçu par les personnes qui il s'adresse.
Pour qu'on se sente concerné. C'est ça, de sorte que ensuite on est invité à se mettre en chemin parce que on sait que c'est un chemin de salut, c'est une histoire de salut qu'on écrit dans notre vie. Et c'est comme ça que se termine la parabole du bon samaritain. Va et fais de même. Oui. Hein? Mais le terme qu'on traduit par va, c'est fais route. Fais route et agis ainsi. Et donc, mets-toi toi aussi
dans la même route
de compassion, dans le même cheminement, dans le même récit de salut. Inscris-toi, toi aussi, là-dedans. Ce qui nous conduira à quelle sorte de pratique l'Évangile de Luc nous invite-t-il?
À ce moment-ci, on va prendre une pause et nous revenons, Francine, avec ces pratiques dont vous venez d'évoquer la présence. Toujours en compagnie de ma collègue Francine Robert et nous sommes à explorer les récits de Luc. Francine, juste avant la pause, on parlait des pratiques et je reviens à ma question, mais différemment. Qui est votre personnage préféré? Je m'aperçois que ça marche pas. Mais moi, je vais vous dire qui est mon personnage préféré. Et mon personnage préféré chez Luc, c'est Zachée. On parle des pratiques. Alors, Zachée, me semble, est une illustration d'une pratique que Luc va utiliser pour amener ses auditeurs aussi à cheminer dans cette découverte de Jésus-Christ.
Vous avez raison, Sylvie. Le récit de Zachée se termine par « Voici Maître », alors il se met debout. Je vous rappelle que c'est un petit bonhomme. Le récit commence en nous précisant que Zachée
est petit.
De petite taille, oui. Et alors, il se met debout et cette précision narrative nous suggère que Zachée vient de grandir.
Et il grandit au moment où il descend de l'arbre.
Déjà, oui, puisqu'il est tellement étonné que Jésus s'invite chez lui, alors qu'il est un chef de collecteur d'impôts, probablement exploiteur un peu de sa situation, c'est-à-dire qu'il collecte un peu plus d'impôts que ce qu'il doit rendre aux Romains ou
situation aux monarques. Extrêmement moderne et actuelle.
Oui, disons qu'il a profité de... Mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, Sylvie.
C'est pour ça que je vous dis que ces récits sont très modernes.
Il profite de sa situation pour en prendre un peu plus puis s'en mettre dans les poches.
Alors, nous sommes très...
J'avais pas fait le lien du tout. Avec la commission Charbonneau, c'est ce que vous avez en tête.
Oui, c'est ce que j'ai en tête. Et c'est là où le personnage nous est encore très moderne.
Alors, voyez... C'est mon Dieu que c'est intéressant ce lien que vous m'avez fait faire là, parce que si Jésus passait dans le village ou dans un arrondissement de Montréal ou de la ville de Laval, je suis pas certaine que la foule trouverait ça vraiment sympathique qu'il décide d'aller chez le fonctionnaire corrompu
et prendre un repas avec lui.
Et de choisir lui-même que c'est là qu'il s'invite, que c'est là qu'il va. Et on aurait, comme dans le récit que Luc nous raconte, une foule qui murmure, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger.
L'originalité de Luc, quand il utilise des récits et des personnages dans lesquels nous nous reconnaissons, dans le sens que ça vient toucher de nos propres expériences et de nos relectures aussi, de
tout
nos cheminements.
Fait. Ici, avec le rapprochement qu'on a fait, on n'a pas le beau rôle. C'est-à-dire que, spontanément, on va toujours s'identifier au bon personnage. Là, ça serait Zachée. Mais voilà qu'on pourrait très bien s'identifier aux gens qui sont pas contents que Jésus aille proposer le salut à quelqu'un comme Zachée. C'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il fait et... Pourtant, cela nous ressemble tellement en humanité aussi. Et ça, je pense que c'est de nous replacer dans un contexte très, je dirais, réel, de notre condition de croyant et de croyante.
Notre condition de pécheur aussi, de gens un peu, le mot qui me vient, c'est le mot anglais, selfish, un peu tourné vers soi-même, égocentrique, tout ça. Et quand je vous parlais du personnage de Jésus, se solidarise avec l'humanité, ça veut dire aussi aller jusque-là où sont ces humains égocentriques comme Zachée.
Effectivement.
Et cette initiative que Jésus a prise, d'abord a provoqué la joie et certainement l'étonnement de Zachée, bien sûr.
Et je pense que c'est comme si les portes d'une grande liberté s'ouvraient à lui, et c'est la joie.
C'est les portes, plus précisément, c'est Dieu qui lui ouvre la porte alors qu'il est persuadé qu'il ne pourra jamais entrer en présence de Dieu. Comme dans la parabole, encore là propre à Luc, la parabole du publicain qui prie, mais derrière le temple, qui n'ose pas s'avancer, qui n'ose pas se lever. Ça, c'est une parabole qu'on ne trouve que chez Luc, et c'est ça, Zachée. Il n'aurait jamais invité Jésus chez lui, là, alors que des pharisiens invitent Jésus chez eux. Zachée n'aurait jamais
pensé.
Et d'où la joie du salut. Donc, à la fin du repas, alors qu'on ignore tout de ce qui a pu se passer pendant ce repas et de ce que Jésus a pu lui dire... Il a peut-être fait comme avec les disciples d'Emmaüs, le faire parler sur sa vie et sur ce qui le préoccupe, on n'en sait rien. Zachée se lève, donc, nous raconte Luc, et il dit « Voici, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et les gens à qui j'ai fait du tort, je vais les rembourser 4 fois. » Et alors, on se dit tout à coup « Voici que ce Zachée découvre qu'il est concerné par l'existence de pauvres dans son environnement. » Devient capable de compassion envers ces gens, de partage. Et donc, c'est une pratique, puisque c'est sur le thème
de
la pratique chrétienne, c'est une pratique très concrète de solidarité de Zachée avec les pauvres et de réparation des torts qu'il a fait, c'est-à-dire de conscience face à ces gens à qui il a nuit, qui ont souffert à cause de lui, de réparer très concrètement ses torts. Et ça, c'est typique de Luc, cette insistance sur une pratique qui va, au fond...
changer quelque chose.
Changer quelque chose pour ses pauvres et pour ses exploités. La pratique de Jésus envers Zachée a changé quelque chose chez Zachée. Et à son tour, il va changer quelque chose dans la vie des autres. Jésus, étant patient et compatissant envers Zachée, range Zachée patient et compatissant envers les autres.
Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on ne sait pas combien de temps le repas a duré. Ça montre toute la commensalité dont nous parlions tout à l'heure, sauf que ça suppose ce cheminement et ce devenir, je dirais, de compassion.
Oui. Et même, on peut le concrétiser, cette idée-là de patience de Jésus encore mieux, si on signale que, deux pages avant, dans son évangile, on a le récit de l'appel de l'homme riche. Ce récit-là, donc, n'est pas propre à Luc. Et rappelez-vous cette demande exorbitante de Jésus. Mais après tout, lui veut faire plus, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, et Jésus lui dit, va, vends tous tes biens, donne ça aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Et bien sûr, ce jeune homme s'en retourne chez lui, ce que j'aurais fait aussi. Cette proposition... elle est extrêmement exigeante. Et on se dit, mais c'est, mon Dieu, que c'est effrayant. Mais deux pages plus loin, chez Luc, on a le récit de Zachée. Et Jésus ne lui demande pas de donner tous ses biens. Il ne lui demande rien.
Il lui demande juste d'aller chez lui.
C'est ça, il lui demande seulement de l'inviter chez lui.
Exact.
Et donc, Jésus se fait accueillir par Zachée et donc lui-même accueille Zachée comme il est. Et cela a pour effet que Zachée peut donner. Il va pas vendre tous ses biens, mais il va donner la moitié de ses biens, ce qui est déjà pas mal, hein, pas mal beaucoup, et réparer ses torts. Et ça semble suffire au Jésus de Luc. Vous voyez, quand on parle de la patience et des cheminements, ça semble lui suffire, puisqu'il va lui-même ajouter, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison.
Et c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est au présent.
Voilà.
Vous savez, Francine, j'ai eu la chance d'aller voir le dernier film de Aimon.
Ah oui.
Tout ce qui t'appartient, je pense. Moi, j'invite tout le monde à aller voir ce film-là qui est magnifique, où l'on voit justement un jeune homme riche qui va choisir volontairement de tout donner à la Croix-Rouge au nom même de la liberté.
Ah oui.
Alors là, on n'est pas dans une question de foi avec Aimon, mais je dirais une histoire extrêmement moderne et on peut trouver des affinités avec ce récit aussi du jeune homme riche.
Absolument.
C'est à ce prix-là que la liberté sera possible.
Donc, cette pratique-là du partage, elle est très, très présente chez l'Évangile de Luc. Et d'une manière très pragmatique, et donc là encore très contemporaine. Hein. C'est chez Luc, par exemple, qu'on a l'histoire de l'intendant qui va perdre son emploi parce qu'il a mal géré les biens de son patron. Et qui s'en retourne chez lui en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire?
Mais il est ingénieux.
Et il est astucieux. C'est le mot qu'on a chez Luc. Et dans d'autres paraboles, ce mot-là est positif chez Luc. Et alors, il fait venir les endettés de son patron et il réduit leur dette. Bon, ça scandalise parce qu'évidemment, c'est un peu voleur, c'est pas son argent, mais ça dit bien, je trouve, qu'il convertit l'argent en relation. Au lieu de faire jouer la règle du jeu de l'argent, qui est l'argent doit profiter et ce que tu le dois, on annule pas les dettes, au contraire, il change l'argent en relation. Et son patron trouve ça génial. Et il le garde. Alors, vous voyez, et donc, il a subverti l'argent, cet homme. Ça, c'est du Luc. Bon, on a la prédication de Jean le Baptiste au début des quatre évangiles. Mais seulement chez Luc, on a la question que les gens posent à Jean. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le faire, la pratique. Hein? Oui. Comment on va traduire ton appel en pratique dans nos vies? Jean va dire, celui qui a deux tuniques, qu'il en donne une. pas qu'il en donne une, parce que c'est pas bien d'en avoir deux, j'ai pas fini la phrase, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas.
Ce qui fait toute la différence.
Fait toute la différence. C'est pas pour, parce que c'est pas bien d'avoir deux tuniques. Ce qui est bien, c'est d'avoir compassion pour celui qui en a pas. Et les soldats vont dire, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Contentez-vous de votre solde, hein? Profitez pas de votre force pour exploiter les gens et leur prendre leurs biens. Des collecteurs d'impôts vont demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenez seulement ce qui est dû et exploitez pas les gens. Ça, c'est du Luc très pragmatique, très réaliste sur les jeux de pouvoir et d'argent dans la société. Je dis les jeux de pouvoir. Je pense à cette phrase qu'on a que chez Luc. Jésus est envoyé par Pilate à Hérode. Pilate voudrait se débarrasser de cette patate chaude, hein? Et donc il envoie Jésus au roi Hérode. Évidemment, on est dans les récits de la Passion. Et Hérode, qui réclame un miracle, tout ça, bon, finalement, ça fonctionne pas, et il retourne Jésus vers Pilate. Et Luc ajoute, de ce jour-là, Pilate et Hérode, qui étaient ennemis, devinrent amis. Vous voyez ce pragmatisme face au pouvoir. Comment fonctionnent les pouvoirs sociaux et civils? Comment les puissants se mettent d'accord sur le dos des faibles?
Hein? C'est extrêmement moderne.
Et on ne sera pas étonné à ce moment-là que la phrase de Matthieu, « Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait », devienne chez Luc, « Vous serez compatissant ».
Miséricorde.
Vous aurez des entrailles pour les autres, comme Dieu a des entrailles pour vous. Vous serez sensible à leur détresse. Tu seras comme le Samaritain qui a été troublé, bouleversé en voyant le blessé sur la route. Tu seras comme le Père, absolument ravi et bouleversé en voyant son Fils revenir. Et tu seras pas là à faire des comptes étroits sur ce qui est dû et ce qui est pas dû. Tu seras compatissant. Ça, c'est la pratique chrétienne pour Luc. Et finalement, cette pratique, qu'est-ce qu'elle produit? Elle écrit des histoires de salut dans la vie des gens. Ça te donne rien de faire des grands discours sur la bonne nouvelle du salut. On lit des récits, hein, qui sont des histoires de salut pour des individus à échelle humaine, et on est renvoyé à la tâche de faire des histoires de salut dans la vie de mon voisin, dans la vie de celui qui est au bord de la route. J'inscris une histoire de salut parce que j'ai une pratique concrète. Et ça, c'est du Luc, j'allais dire, tout craché.
Vous savez, Francine, tout comme moi, combien de fois qu'on va se poser la question comment inscrire une telle histoire de salut dans nos propres histoires personnelles et collectives? Et il me semble que là, vous venez de l'illustrer d'une manière, je dirais, très abordable et très compréhensible. Et il y a un quelque chose de presque simple, si vous me permettez.
Oui, ben
et c'est
oui.
Ça que je trouve beau là, quand je relève cet élément-là.
De presque simple.
De presque simple. Et qui fait en sorte que des fois, j'ai l'impression qu'on se casse la tête. Pour essayer d'établir des ponts ou essayer de, vous le savez aussi bien que moi, quand on parle en ecclésiologie aussi, dans nos pratiques, on essaie comme de recréer le monde ou essayer d'inventer quelque chose de neuf, alors qu'on l'a dans ces pratiques où il y a toujours des collectivités, il y a toujours du monde autour de Jésus. Et comment est-ce que ces communautés, ces collectivités, ces foules sont initiées aussi à la dimension ecclésiale et communautaire.
De la pratique.
De la pratique.
Et on pourrait dire de la pratique du règne de Dieu, si on veut prendre le vocabulaire de l'Évangile. Hein. La pratique du règne de Dieu, c'est d'inscrire les histoires de salut dans la vie des gens, parce que, ultimement, le règne de Dieu, c'est l'histoire de l'humanité transfigurée. Alors, ça change pas le monde, mais Luc pense que ça change le monde, puis il a raison.
Oui. Ça change quelque chose.
On peut pas changer le monde entier, mais il s'agit de changer ce qui peut être changé à ma portée. Et pour Luc, cela, c'est d'inscrire le règne de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Ça change le monde, oui.
Nous allons prendre une pause, Francine, et au retour de la pause, parce que ça change le monde, il me semble que l'Évangile de Luc, c'est celui de la joie. Et ici, il y a un récit que je trouve joyeux et nous y arrivons bientôt. C'est bien le récit de l'Annonciation et de la Visitation. Nous y revenons après la pause. de retour avec ma collègue, Francine Robert, dans cet évangile de Luc. Francine, déjà nous sommes dans cette effervescence de la fête de Noël, et c'est dans Luc que nous retrouvons ce récit de l'Annonciation, la Visitation. Je vous le dis tout de suite, mon récit préféré chez Luc, c'est la Visitation. Alors là, au moins, vous êtes au courant. Zachée d'un côté, la Visitation de l'autre.
Au moins, vous êtes équitable. Un homme, deux femmes.
C'est quand c'est même bon. Ça, ouais. Et deux femmes enceintes.
C'est un récit magnifique présenté le troisième dimanche de l'Avent, je pense. Et en passant, c'est aussi l'Évangile où on trouve les bergers. Les gens qui ont des images de Noël avec des petits bergers puis des petites brebis sur leurs épaules, là, dites merci à Luc, c'est parce que c'est de là que ça vient. La joie de Noël, la chorale céleste qui chante la nuit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, c'est du Luc. Là,
on trouve et on est certain ailleurs, que les femmes sont incluses aussi.
Absolument.
Dans cette
manie. Oui, et d'ailleurs, les bergers, qui sont des figures de personnages exclus par la société, les femmes qui sont aussi des personnages de deuxième classe dans la société, sont présentes et présentes dans les récits de Noël, mais les exclus et les femmes sont présents partout dans l'Évangile de Luc. Et je signale en passant que Luc est le seul à nous indiquer qu'il y a des femmes disciples de Jésus. C'est au début du chapitre 8, les versets 1 à 3, où Luc nous dit « et des femmes le suivaient », c'est le verbe technique pour « disciple », « le suivaient et l'aidaient de leur bien », et il en nomme quelques-unes. Il y a beaucoup de récits de femmes chez Luc. Et, ben oui, Sylvie, il y a ce beau récit que vous aimez de la Visitation.
De la Visitation.
C'est assez merveilleux, cette mise en scène de deux femmes enceintes qui reconnaissent l'une et l'autre la présence de la bonne nouvelle dans leur vie et dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que c'est un récit de joie. C'est chez Luc que nous avons le Magnificat, cette belle grande prière de Marie qui est truffée de passages de l'Ancien Testament d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ce Dieu auquel elle rend grâce? Il abaisse les puissants. Il élève les humbles, ou les humiliés, on peut traduire des deux manières, les humbles ou les humiliés. C'est exactement ce que Jésus a fait dans sa pratique, victime des puissants, parce que il se fait proche et solidaire des humiliés.
Et Luc qui met en scène une Marie qui se met en route. Alors, oui. Cette cohérence dont vous avez parlé de cheminement de Jésus, faire route avec lui, mais qui indique ce cheminement. Ce que j'aime de ce récit, Francine, moi, il faut que je vous le dise, nous avons là un modèle de Marie comme femme active, qui prend la route joyeusement, qui s'en va traverser cette montagne et qui va tout simplement, elle aussi, reconnaître ce qu'il y a de beau et de grand dans sa propre vie et dans celle de sa cousine Élisabeth.
Oui, et là encore, une Marie solidaire. De femme enceinte à femme enceinte, on pourrait dire, comme Jésus le sera.
De compassion, va passer 3 mois avec elle.
Oui, donc elle fait partie de ces nombreux personnages que Luc nous propose comme modèle. Elle n'est pas la seule. Pensez à la prophétesse Anne qui est au temple et qui reconnaît en Jésus le Messie. Celle-là, on l'oublie toujours. On se rappelle vaguement de Siméon qui est là aussi. Mais on oublie la femme. Luc place deux figures de prophètes, un homme et une femme.
Et des anciens.
Oui. Vous parlez de Ruth. Il y a aussi ce récit propre à Luc, des parents de Jésus qui, lorsqu'il a 12 ans, l'amènent à Jérusalem et qu'ils l'ont perdu en chemin lorsqu'ils reviennent. C'est un beau récit.
C'est
aussi
un magnifique récit et qui montre bien qu'on peut se perdre en chemin.
Et voilà. Et que il y a de la patience de Dieu sur nos cheminements. Et bon, ça me donne l'occasion de signaler cette particularité de Luc à laquelle on pense rarement quand on lit les évangiles juste par petites tranches minces de saucisson et qu'on ne voit pas
l'ensemble.
Tous ces petits récits constituent un macro-récit.
Oui.
Et on constate, et j'invite tout le monde à vérifier ça de plus près, à prendre à un moment donné les deux premiers chapitres de Luc et la fin, les derniers chapitres, et à voir tous les liens
qu'il y a entre
Luc
les deux.
Fait, son début et sa fin. Et on voit bien que c'est sa vision d'une histoire de salut qui inclut des individus particuliers, mais qui déborde de l'Ancien Testament jusqu'à la vie de l'Église, on pourrait dire. Je vous donne des exemples. C'est des clins d'œil qu'il fait. Par exemple, le même mot pour la salle d'hôte dans laquelle il n'y a pas de place pour que Marie puisse accoucher.
Et le même, je crois, que l'on retrouve lors du dernier repas.
Pour la dernière scène, absolument. C'est ce qu'on traduit le cénacle. C'est, chez Luc, le même mot grec.
Qui revient.
C'est la salle d'hôte. Lorsque les parents cherchent Jésus, la première parole qu'il dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » On pourrait penser à la parole de l'ange au tombeau vide. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? »
Intéressant.
Vous voyez? Lorsqu'on lit l'espérance de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, dont on a une longue prière de Zacharie au chapitre 1 de Luc, ou l'espérance de Siméon au chapitre 2, qui reconnaît dans le bébé qui est là, la concrétisation de l'espoir d'Israël, on reconnaît là l'espérance des disciples d'Emmaüs qui espéraient, eux, que c'était Jésus qui allait sauver, libérer Israël. Bon, je vais m'en permettre un moins évident, un lien, mais que je trouve très prégnant. On nous dit plusieurs fois que Jésus est couché dans une mangeoire. On nous le dit, Marie, la Maïota, l'a mis dans une mangeoire. L'ange au berger, vous le trouverez couché dans une mangeoire. Et ensuite, le narrateur, ils le trouvèrent couché dans une mangeoire. Cette insistance à placer ce Jésus dans un endroit où on dépose ce qui doit être mangé, il me semble que, voyez, sur la crèche, la phrase qu'on pourrait écrire, c'est « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous ». Il y a un lien, là, il me semble. Alors, voyez, on n'est plus dans la bébélogie. Au fond, c'est pas le bébé qui intéresse Luc. C'est l'avènement dans l'incarnation de ce Dieu qui devient l'un de nous, c'est-à-dire qui se fait solidaire de l'humanité. C'est pas le bébé, c'est le fait que ce soit un homme.
Un être humain.
Un être humain qui sera soumis à la mort et tout ça. D'une certaine manière, c'est le mystère de l'incarnation, Noël. C'est pas un trip sur un bébé, si vous me passez le mot trip.
Et c'est à la lecture de la résurrection qu'il sera possible à Luc de pouvoir revenir sur le mystère de l'incarnation.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, vous parliez du récit de l'Annonciation, tous les titres que l'ange annonce comme étant les titres de cet enfant que Marie aura, ce sont les titres que la foi après Pâques donnera à Jésus.
Jésus.
On est déjà rendu après Pâques dans la parole de l'ange.
Oui.
J'aimerais revenir, et pour terminer, Sylvie, à ce récit que vous aimez, des deux femmes enceintes. Et c'est Élisabeth qui est remplie de l'Esprit-Saint. Marie l'a été avant. Luc dit bien, Élisabeth est remplie de l'Esprit-Saint et donc elle reconnaît ce qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est-à-dire cette bonne nouvelle qui est en train de s'accomplir en Marie. Je dirais, ça, c'est la figure de l'humanité du point de vue de Luc.
Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous voulez dire quand vous me dites ça? Je comprends la grossesse, là, mais là...
Luc, je dirais, je suis pas la seule à le dire, beaucoup de commentateurs le disent, Luc a une vision positive de l'histoire de l'humanité, de la capacité des humains à inscrire une histoire de salut dans l'histoire de l'humanité. Il a une vision positive de l'être humain. Il a une anthropologie positive.
Il me semble qu'on a besoin de ça aujourd'hui.
Et je trouve, moi aussi. Et c'est comme si, et là c'est moi, c'est pas Luc qui dit ça, mais c'est comme si Élisabeth était la figure d'une humanité qui porte déjà la bonne nouvelle en elle, d'une humanité qui est enceinte de la capacité du règne de Dieu, si je peux le dire comme ça.
Oui.
Et la capacité de l'humanité au règne de Dieu est déjà un don qui nous précède depuis toujours.
Oui.
Jean le Baptiste, qui est le fœtus au ventre d'Élisabeth, va être celui qui proclame
la bonne nouvelle.
Et il me semble que Élisabeth pourrait être l'incarnation de cette humanité capable de proclamer la bonne nouvelle, capable de l'inscrire dans la vie des gens, dans l'histoire de l'humanité. Et à ce titre-là, oui, c'est une grande et belle figure que cette femme, Élisabeth.
Je vous écoute, Francine, et je me disais, le synode sur l'évangélisation qui vient de se terminer récemment pourrait s'inspirer de cette figure d'Élisabeth, porteuse.
Oui. Parce qu'il me semble qu'on ne fait pas l'évangélisation de la même manière si on part de la conviction que dans celui et celle à qui on parle, il y a déjà la présence de quelque chose de Dieu. À ce moment-là, on va pas l'évangéliser, il me semble, de la même manière. On va déjà le percevoir comme porteur d'un potentiel du règne de Dieu. Ça, c'est un regard positif sur l'humanité et ça change tout dans la façon d'évangéliser. C'est une bonne nouvelle pour Noël, alors
tout à fait.
Ben voilà, Sylvie.
Francine, un immense merci pour votre générosité et de nous avoir permis de cheminer avec vous dans cet évangile de Luc. Vous nous donnez le goût d'entrer dans cette année liturgique et de pouvoir se laisser, je dirais, surprendre sur nos propres routes à la suite de Jésus.
Merci beaucoup, Sylvie. Permettez-moi de remercier à nouveau ma collègue Sylvie Latreille qui m'a permis de partager avec vous le grand plaisir de ce magnifique évangile de Luc. C'est Francine Robert au microphone. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir partagé votre temps avec nous. Je vous retrouverai avec plaisir dans un mois, en janvier. Et d'ici là, je vous souhaite un très beau Noël en compagnie de l'inspiration de Saint-Luc.